France Musique. Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Comment les acteurs du spectacle vivant peuvent-ils contribuer à construire un monde plus juste et plus durable? C'est la question à laquelle Sophie Lanotte, directrice associée de l'agence Galatea Conseil, et Nathalie Moine, fondatrice de l'atelier Florès, tentent de répondre avec cette enquête dont nous parlons ce matin, cette enquête intitulée « Le spectacle et le vivant, 20 propositions pour contribuer à la transition écologique et sociale ». Bonjour à toutes les deux, Nathalie Moine, Sophie Lanotte.
Bonjour Saskia.
Bonjour Saskia.
Bienvenue dans Musique Matin, grand plaisir de vous accueillir pour évoquer ce travail de titan que vous avez mené il y a quelques mois à peine. Quelle est la raison d'être de cette enquête, de ce livre blanc? Comment a-t-il vu le jour, Sophie Lanotte?
Moi, je crois que c'est la rencontre de deux engagements en faveur de la transition écologique et sociale. Deux engagements qui voulaient s'incarner dans une pratique professionnelle au sein du secteur du spectacle vivant.
Absolument. Nathalie Moine.
Absolument. On s'est rencontrés avec Sophie vraiment autour de cette notion. Et on s'est demandé, dans cette période qui est très, très délicate, évidemment, pour le spectacle vivant, ce qu'on pouvait faire à notre mesure pour contribuer justement à ce changement de regard, à cette transition écologique et sociale. Et ce qui nous a paru le plus opportun, eh bien, c'est de faire ce que l'on sait faire, à savoir interroger des acteurs, élaborer, disons, des perspectives et faire des propositions à partir de cette analyse.
Et effectivement, vous évoquez cette période délicate, mais pourtant la situation de l'environnement reste l'une des préoccupations principales des Français actuellement. Vous dressez un état des lieux, vous préfigurez de nouveaux modèles, mais à qui s'adresse cette enquête?
Alors, Sophie Lanotte. C'est vrai que cette enquête, elle s'adresse en tout premier lieu à nos collègues, artistes, à nos collègues administrateurs et administratrices du spectacle vivant, à nos collègues et techniciens et techniciennes, mais aussi, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec vous Saskia, on s'adresse aussi évidemment à tous les publics du spectacle vivant, public que nous avons d'ailleurs appris à appeler habitants avec Nathalie, parce que ce sujet est traversé de mots, en fait. C'est aussi une affaire de mots. Les enjeux sont naturellement écologiques et sociaux, mais ils sont aussi et d'abord lexicaux. Et c'est toute cette patte des mots que nous avons d'abord malaxée avec Nathalie pendant 4 mois. Les mots qui nous traversaient, nous. Le vocabulaire dont on a parfois changé. Mais aussi
Comme lequel, par exemple?
Eh bien, vous voyez, j'aurais pu dire développement durable avant. Et maintenant, je dis transition. Il serait peut-être un petit peu long de rentrer dans les détails ici. Nous vous renvoyons toutes et tous à la lecture de notre livre blanc. Mais ce sont aussi les mots que nous ont donnés celles et ceux que nous avons interrogés 4 mois durant, qui nous les ont donnés comme en cadeau pour élaborer notre pensée. Poser des mots sur notre ressenti à toutes et tous sur ce que c'est que cette transition dont il va falloir s'emparer. Et puis les mots pour élaborer les initiatives, les actions cohérentes que nous allons devoir poser désormais après cette prise de conscience.
Nathalie Moine.
Et à propos de mots, c'est donc pour ça qu'on a choisi d'appeler notre ouvrage « Le spectacle et le vivant ». Puisqu'il nous a semblé qu'à l'heure où le vivant est menacé, la notion de spectacle vivant revêt une dimension vraiment inexplorée. Pour tous les acteurs et tous les amoureux du spectacle vivant, cette expression va de soi. Et nous, on a souhaité s'interroger sur, justement, le lien entre spectacle et vivant. Qu'est-ce que c'est exactement que le vivant du spectacle? De quoi parle-t-on quand on parle de vivant du spectacle? C'était vraiment une grosse partie de notre travail.
Et j'aime beaucoup cette citation que vous reprenez hein, d'Emmanuel Thibloux, qui est directeur de l'École nationale supérieure des arts déco et qui rappelle l'origine même de la notion de culture, et je le cite, issue du latin cultura, qui vient lui-même de colérer, habiter, cultiver, pratiquer, soigner, entretenir. La culture est au sens propre et premier agricultura, culture de la terre. Vous interrogez aussi dans cette enquête, ce livre blanc, la notion, le mot, ou la signification plutôt de l'artiste, est-il prêtre, guerrier ou agriculteur. Cette transition dont vous parlez toutes les deux, est-elle de l'ordre du devoir ou de la responsabilité? Ça, c'est aussi une grande question qui interroge pas mal des artistes que j'ai l'occasion de recevoir ici le samedi. Je ne sais pas si l'une de l'autre veut réagir. Sophie Lanotte.
Alors, figurez-vous, Saskia, que c'était la première question que nous posions aux personnes que nous avons rencontrées. Est-il du devoir des acteurs de la culture de mener des actions à caractère, à impact écologique et social? Et pour certains, c'était une chose évidente, mais pour d'autres, la nuance qui s'est imposée, c'était celle de la responsabilité. Responsabilité vécue individuellement, en tant non seulement que professionnel ou pas du secteur culturel, puisque nous avons interviewé des personnes qui n'appartiennent pas, entre guillemets, à notre secteur, des philosophes, des anthropologues. Mais ce qui s'est dessiné au fil de l'enquête, c'était que c'était une responsabilité éminemment partagée.
Et effectivement, en interrogeant plus de 60 acteurs du spectacle vivant, de la culture, des sciences humaines, de la transition, c'est ce que vous disiez, ce constat est effectivement l'un des premiers, en tout cas à la lecture de cette enquête, une préoccupation partagée. Mais qu'en est-il de sa mise en action? Il n'y a pas encore de cadre partagé par l'ensemble de ces acteurs, Nathalie Moine.
Le sujet étant extrêmement dense quand on parle de responsabilité écologique et sociale, puisque pour nous les deux s'inscrivent vraiment dans un continuum. Il s'agit d'un même sujet et des applications diverses d'une même problématique. Sous l'aspect vraiment écologique, c'est encore balbutiant. Il y a des acteurs qui sont extrêmement dynamiques et qui essayent des choses, et je pense que tout le travail de votre émission le met justement particulièrement bien en valeur. Au point de vue social, on est beaucoup plus avancé. Ça fait partie vraiment de l'héritage culturel, on va dire, depuis la pensée de Malraux. Les acteurs du spectacle vivant sont particulièrement mobilisés sur ces questions.
Engagés.
Ça n'est pas nouveau. En revanche, il y a à cet endroit aussi des représentations qui évoluent, des choses qui changent. Par exemple, la notion de droit culturel, qui est finalement assez récente et qui est encore en cours d'exploration et d'investigation, soulève une dimension nouvelle, à savoir que plus que la notion d'accès qui avait prévalu jusque-là, à savoir que l'important est de mettre en contact un public avec une œuvre, on parle de plus en plus de prendre part à la vie culturelle. Donc vraiment y participer, notamment en élaborant de nouveaux récits. Et en n'étant plus seulement dans une parole descendante. Ça, c'est extrêmement nouveau et extrêmement
stimulant. D'où ce changement
stimulant
de vocabulaire aussi, on ne parle plus de public, mais d'habitant. Nathalie Moine, on va écouter votre choix musical à 8h38 sur France Musique, Béla Bartók, un extrait de sa suite de danse. Georg Scholti dirige l'Orchestre Symphonique de Londres.
Thank you.
troisième mouvement de cette suite de danse de Béla Bartók. C'était le show musical de l'une de nos deux invitées ce matin, Nathalie Moine. Eh bien, fondatrice de l'atelier Florès, vous nous dites quelques mots de ce choix, Nathalie?
Absolument. Le travail de Béla Bartók, je le trouve absolument fascinant. Parce que là, en l'occurrence, c'était en 1923. Et à la manière d'un ethnomusicologue, il est parti vraiment collecter auprès des paysans tout un patrimoine, que ce soit hongrois, roumain, slovaque, bulgare. Il est allé jusqu'en Algérie. Et je trouve que c'est fascinant parce qu'aujourd'hui, on se parle de droits culturels, du fait de mobiliser justement les habitants. Et on voit que ça n'est pas une question nouvelle.
Et effectivement, dans votre enquête, les questions écologiques et sociales sont très liées. Hein. Vous prenez une approche systémique. Vous proposez aussi, parmi ces 20 propositions que vous faites, de donner les moyens d'une évaluation professionnelle, citoyenne, à toutes les entités, tous les acteurs du spectacle vivant. Enquête que vous avez écrite à quatre mains, intitulée « Le spectacle et le vivant, 20 propositions pour contribuer à la transition écologique, écologique et sociale ». Sophie Lanoux, vous êtes également des nôtres ce matin, directrice associée de l'agence Galatea Conseil. Comment se projeter malgré les incertitudes, les artistes doivent faire face à un péril à très court terme, celui de la crise que nous traversons. Pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient s'y mettre, comment justement dresser l'inventaire des ressources immédiatement disponibles?
Je crois que ça passe par un inventaire à la fois personnel, intime et peut-être aussi collectif. Si vous considérez une organisation culturelle donnée, on emploie beaucoup le mot organisation dans notre livre blanc parce que le mot est générique et nous permet de recouvrir une diversité de...
À la fois le privé et le public.
Alors, on s'est surtout penché sur les acteurs subventionnés, mais on entend par là le fait de s'intéresser aussi bien à une grosse institution comme l'Opéra National de Paris que à une association, à un festival au plus près du territoire et des habitants. Bon. Donc, il y a la nécessité de s'interroger d'abord et peut-être d'autoriser la parole. Non pas l'autoriser dans un sens descendant, comme nous le disait Nathalie tout à l'heure, mais vraiment de donner la possibilité aux membres de l'organisation culturelle et aussi des destinataires, par exemple si c'est un festival, les festivaliers, autoriser la parole, c'est leur donner la possibilité d'être auteurs du projet. Ça rejoint aussi la question des droits culturels. On a été beaucoup traversées toutes les deux de la question de la création partagée. Comment inviter les acteurs, tous les acteurs, toutes les parties prenantes d'un projet culturel à s'exprimer sur la conception de ce projet, la programmation par exemple. On pourrait tout à fait embarquer les publics avec nous pour programmer, mais aussi pour... pas seulement pour la programmation, mais...
Voilà, sous tous les aspects finalement d'un projet, d'une programmation, cela pourrait répondre en même temps à la complexité du secteur du spectacle qui est varié, qui est travaillé par des logiques de rareté, de distinction. Nathalie Moine, vous souhaitez réagir?
Oui, absolument. Pour rebondir sur ce que disait Sophie à l'instant, le sujet est dense aussi parce que les ressources sont extrêmement pluriel. C'est-à-dire que quand on parle du vivant, on parle bien entendu de l'aspect le plus végétal, animal, pourquoi pas, le sol sur lequel s'inscrit un acteur culturel, mais aussi, évidemment, les femmes et les hommes qui rendent le spectacle possible. Bien sûr, on pense aux artistes en premier lieu, c'est le cœur du sujet, mais il y a aussi les techniciens, il y a aussi l'administration et, on le constate très très cruellement aujourd'hui, le public. Un spectacle qui est donné sans public perd énormément de sens, perd son adresse. Et du coup, toutes ces femmes et ces hommes-là constituent une ressource absolument primordiale du spectacle. Et la dernière, qui est plus immatérielle, plus poétique aussi, c'est vraiment la mémoire, l'esprit des lieux. Une ressource, on va dire, en pensée, en idée. Que raconte le spectacle? À partir de quoi est-ce qu'il il travaille son propos et son contenu? Et toutes ces ressources-là peuvent être pensées aussi bien à la source du spectacle qu'en matière d'impact. En quoi est-ce que le spectacle influe et a une incidence réel et tangible sur l'ensemble de ces ressources.
Mais alors ça, c'est une question qui revient aussi régulièrement dans cette émission. Comment se saisir de ce sujet? Comment faire cette transition sans mettre le projet artistique en péril? Comment ne pas toucher à cette notion de liberté ou ébranler cette notion de liberté de création? Il y a un intervenant qui évoque dans cette enquête que le fait que certains pays scandinaves conditionnent leur soutien financier des acteurs culturels en fonction de leur niveau d'éco-responsabilité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginé en France, Sophie Lanotte ?
Alors, certains y réfléchissent. Je crois que la ville de Rennes, notamment, a commencé à réfléchir sur la question. On touche là à
un sujet très sensible
de cette thématique. Ce qu'on a perçu de la part de nos témoins, c'est qu'il y a le désir d'un cadre, d'un encouragement, c'est bien le message que Nathalie et moi sommes venus délivrer ce matin, d'incitation, mais tous d'insister sur cette liberté de création qui est désormais inscrite dans la loi.
Absolument.
Et qui finalement est sans doute notre plus grand atout pour mener cette transition, transformer la culture. Parce que... finalement, cette liberté, c'est le principe même qui est à l'œuvre dans le processus créatif. Et donc, il s'agit pour nous toutes et tous d'apprendre de nos chers artistes et de mettre en œuvre tout ce qui fait le précieux de la création.
Apprendre, eh bien, de cette enquête que je vous souhaite, que je vous invite à télécharger dès à présent le spectacle et le vivant, 20 propositions pour contribuer à la transition écologique et sociale. On ne pourra pas toutes les détailler ce matin, malheureusement, mais heureusement, vous pouvez vous connecter sur le site atelier-flores.com. Le livre blanc va paraître d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. Donc inscrivez-vous et vous le recevrez par email. Vous pourrez le consulter, le partager. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous voir ce matin. Sophie Lanotte, directrice associée de l'agence Galatea Conseil, et Nathalie Moine, fondatrice de l'atelier Flores. On se quitte avec votre choix musical, Sophie Lanotte.
Oui, pour moi, c'est le vivant de la musique. C'est la musique qui nous traverse et qui laisse sa trace indélébile en nous. C'est Christophe Desjardins que vous allez entendre.
Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci beaucoup, Saskia.
Quelques notes de Natura et Luciano Berio, ici avec Christophe Desjardins et Jacqueline Hoth à 8h50 sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.